Donc on a 45 minutes pour parler du recrutement versus handicap. Alors versus, avec, contre, pour, ben on va voir un petit peu tout ça parce que nos procédures de recrutement ont été extrêmement formalisées, standardisées depuis fort longtemps. Et c'est pour ça que j'ai prévu de commencer mon introduction avec une petite annonce que je vais vous lire. Alors juste en deux mots, qui je suis? Je suis Nicolas Janda, je suis le responsable du pôle formation du cabinet TH Conseil. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est le travail qu'on fait avec nos clients, c'est aussi typiquement ce qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'on rencontre? Bah, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet il y a 2-3 jours, en préparant la conférence. J'ai cherché une annonce qui pouvait être assez révélatrice de ce qu'on peut retrouver en matière de recrutement. Je vais vous la lire et je vous laisserai chercher dedans les côtés exotiques, on va dire. Alors, il s'agit de pourvoir un poste de gestionnaire paye, je précise, en apprentissage ou en alternance. Ah bon, je vous passe le descriptif de l'entreprise, peu importe. Et on arrive à la description du poste. Rattaché au responsable de la gestion de personnel et de la paye, vous collaborez quotidiennement avec lui et l'équipe paye sur un périmètre bien défini. Vos missions sont relancer, conseiller et assister les collaborateurs, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, dans la remontée de documents administratifs et financiers. Contrôler la validité de ces documents, assurer le reporting des budgets engagés par les collaborateurs et intégrer ces éléments au système de gestion des payes. Est-ce que vous avez le profil? Vous suivez une formation en RH ou en paye type Bac plus 2. Au-delà d'aptitudes avérées en rigueur, nous recherchons une personne dotée d'un sens relationnel aisé, capable de travailler en équipe et de réagir rapidement. Quelque chose vous interpelle là? Non, pas trop? Ah, alors c'est peut-être maintenant. La maîtrise de la paye est indispensable. La parfaite maîtrise de l'anglais est également indispensable. Il y a des trucs qui piquent peut-être un peu là. Hein. On va aller chercher un petit peu plus loin derrière. Qu'est-ce qui peut expliquer ce genre? Oui, c'est, comme vous venez de dire, cette personne, elle est en formation, donc théoriquement, elle vient apprendre ce qu'on lui demande déjà de maîtriser. Si on était un peu cynique, on pourrait dire que c'est une recherche de main-d'œuvre déguisée à pas très cher. Bon, peut-être pas aller là, c'est pas le but aujourd'hui. Mais c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui amène à avoir une annonce aussi standardisée, avec des critères qui sont aussi normés. En fait, nos amis Taylor et Ford nous ont expliqué depuis fort longtemps ce que c'est une entreprise moderne. On la pratique tous, hein, sous une forme ou sous une autre. L'entreprise moderne, c'est celle où vous avez le droit d'avoir la voiture que vous voulez, du modèle que vous voulez et de la couleur que vous voulez. Tant que ça reste une Ford T noire. En matière de place à la différence, c'est pas gagné. Ben, la problématique, c'est qu'en matière de recrutement, on fait pareil. À minima, certains vont être en situation handicapante. Encore là, la différence se voit. L'une des particularités du handicap, c'est que bien qu'une personne active sur 10 soit potentiellement concernée d'un point de vue médical, il n'y en a que 20% pour lesquels potentiellement on peut détecter un besoin. Dans la majorité des cas, 80%, le handicap est invisible. Donc ça signifie que ces personnes vont se retrouver dans des schémas de ce type-là. On ne les aura pas détectés. Ça a des conséquences réelles et sérieuses. Le petit schéma qui est là va vous expliquer comment une structure peut se retrouver dans une situation où elle va exclure mécaniquement des candidatures. Vous avez deux axes. L'axe horizontal vous présente la posture de l'entreprise sur son marché de l'emploi. Est-ce que l'entreprise est en position de force? Elle est en position de force quand elle cherche à pouvoir des postes standards, relativement simples en termes de profil, et qu'il y a pléthore de candidats disponibles sur le marché. Exactement le cas quand il y a un fort taux de chômage comme aujourd'hui. C'est l'entreprise qui va dicter sa loi. Je suis un peu comme les chars. J'ai eu plusieurs vies, et dans une de ces vies, ben, j'étais chasseur de tête. Moi, j'intervenais de l'autre côté. Tout à gauche. Ce n'est pas l'entreprise qui dicte sa loi. C'est le candidat. Parce que le candidat, il est rare. Il existe, mais il est déjà en activité ailleurs. On va croiser cette information-là, cette posture-là, avec la posture de la chaîne de recrutement. Ce n'est pas une posture purement individuelle, hein. C'est l'ensemble de la chaîne de recrutement. Donc ce sont autant les postures individuelles que les procédures qui sont en place, mais qui vont déboucher sur deux positions extrêmes possibles. La première, ce serait l'incapacité à prendre des risques en matière de recrutement. Je vais faire un petit raccourci. Alors on est dans les représentations, hein. Il ne faut pas généraliser, on ne va pas stigmatiser non plus, mais force est de constater que dans une entreprise, ce n'est pas toujours les fonctions RH qui sont les plus valorisées. Je ne sais pas si ça parle à certains. Mais au sein des fonctions RH, il y a encore des divergences. Le recrutement n'est pas forcément ce qui est le plus valorisant. Et au sein du recrutement, il y a des tâches moins valorisantes que d'autres. Le sourcing, les précales. Résultat des courses, on retrouve très souvent sur ces tâches-là des gens débutants, voire en alternance ou en formation. C'est quand même le point d'entrée dans l'entreprise. Ça peut avoir de sacrées conséquences. Ça me fait toujours penser un petit peu, c'était bien placé pour le savoir, quand on met dans des zones sensibles des policiers débutants, alors qu'en fait, il faudrait des gens confirmés avec suffisamment de bouteilles. Ben là, c'est un petit peu la même chose. On met à l'entrée des gens qui n'ont pas, parce qu'on ne les met pas dans des positions de pouvoir les prendre, on ne les met pas dans des positions de pouvoir prendre des risques. Donc, ils vont se raccrocher à la feuille de poste, à l'annonce, et ils vont essayer de superposer, sous forme de papier calque, l'annonce, le profil du poste, le CV du candidat, sa lettre de motivation, et essayer de faire coller le tout. À l'opposé, c'est la capacité à prendre des risques. Quand des candidats n'existent pas, et qu'on a la capacité de dire, bah, après tout, je tente sur un recrutement atypique, ben, on va peut-être modifier les dynamiques. On va analyser les cases que ça représente. La première case, c'est celle-là en bas à droite. Quand vous êtes en position de force sur votre marché du travail, qu'il y a pléthore de candidats, mais que la chaîne de recrutement n'ose pas prendre de risques, elle va faire de la surenchère. Je caricature là encore un petit peu, la caissière mammouth à bac plus 5. Qui peut le plus, peut le moins. On m'a demandé bac plus 2 ou bac plus 3, je limite la case dans le doute si je prends 4 ou 5. A priori, ça devrait le faire. Autre case, il y a très peu de candidats. Et c'est typiquement ce qui va se produire avec les candidats handicapés. Le profil moyen type de la personne handicapée potentiellement très différent de la personne non handicapée en recherche d'emploi. Parmi ces différences, vous avez le niveau d'études. Plus de 80% des personnes en recherche d'emploi et handicapées ont un niveau inférieur au bac. Vous allez me dire, mais c'est bizarre quand même, avec toutes les lois, les 80%, le bac, etc. Pas si bizarre que ça, parce que quand est-ce que le handicap touche les gens? Majoritairement en cours de vie. Dans 85% des cas, c'est après l'âge de 15 ans. Et l'âge moyen où on est concerné, c'est plutôt 45 ans. Vous voyez émerger petit à petit déjà deux éléments de profil qui, à eux seuls, repoussent déjà les candidats dans le classement. L'âge et le niveau d'études. Là, on rajoute en plus le handicap. Donc potentiellement un CV à trous, des absences, des changements d'orientation. Et un exemple qui remonte à la semaine dernière, quelqu'un que j'ai rencontré qui a fait des études en informatique, n'a pas pu trouver tout de suite un emploi, quelque part, ça l'a presque arrangé parce qu'il est tombé malade. Sauf que, dans ce métier-là, les choses bougent vite. Donc la première chose qu'il a fait en reprenant, c'est une formation de remise à niveau, et pas commencer à travailler. De là, il est retombé malade quelques temps plus tard. Il n'a plus trouvé en informatique, il a trouvé en électronique. Il a refait une formation entre-temps, il a fini en électrotech, je vous passe l'électricité. On est à quand même un parcours maintenant sur une dizaine d'années, tout confondu. Ben pour manger, il est équipier chez McDonald's. À un moment, on prend ce qu'on peut quand il faut manger. Et la question du recruteur qui tue, c'est « expliquez-moi la cohérence de votre parcours ». Ben, typiquement, si on arrive à se détacher de ce genre de choses, on se dit « la candidature standard, elle est différente de ce que je prends, mais potentiellement, il y a quand même des personnes handicapées qui le sont un peu moins que les autres, parce qu'il y a quand même des gens qui sont diplômés, ben, plus 2, 3, 4, 5 ». Effectivement, bon, il faut quand même être réaliste, jeune diplômé, bac plus 4, 5, 4 à 5 000 personnes par an, pas plus, décrochent un niveau du bac et au-delà. Sachant que dans ceux-là, 80% de ceux qui ont décroché le bac ne vont pas plus loin. Donc on va vite avoir un nombre de personnes limité. Excusez-moi, je me suis trompé de chiffre. C'est 16 000 bacs ou plus et 4 000 à 5 000 maximum, bac plus 5 ou au-delà. En gros, il n'y a pas beaucoup de marché. Maintenant, si la chaîne de recrutement est prête à prendre des risques, elle est relativement fataliste. Elle va attendre le bon candidat. Ça ne veut pas encore dire qu'elle va aller le chercher, hein. Au moins, elle est prête à l'attendre. La situation la plus défavorable, c'est celle-là. Vous prenez le profil moyen type dont je viens de vous parler et vous le croisez avec une chaîne de recrutement qui se raccroche mordicus à la fiche de poste, à la fiche métier. Ça ne peut pas coller. Par défaut, on est enclin à ne pas traiter les candidatures des personnes handicapées parce que trop divergentes. La situation la plus favorable, ce serait celle-là. Je suis en position de force et je suis prêt à prendre des risques. Comment on peut essayer de tendre de cette case en bas exclusion à cette case en haut sur l'ouverture. Ben, on va réfléchir un petit peu sur deux termes. Le terme d'égalité et le terme d'équité. Tiens, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle différence vous faites entre les deux ? Charmante demoiselle va vous passer un micro à celui ou à celle qui ose se lancer. Quel silence. Alors, soit c'est limpide pour vous, soit vous êtes perdu, soit vous êtes timide.
Ah.
Ah oui, on part d'un postulat que les situations ne sont pas identiques. Ok. Quelqu'un d'autre ? Complément ?
Il y a une notion de compensation dans l'équité.
C'est-à-dire ?
Effectivement, par rapport à ce que monsieur disait, il y a peut-être deux situations qui ne sont pas forcément identiques au départ. Et donc, peut-être qu'à une personne, on va donner un peu plus et à une autre un peu moins pour arriver à la même situation.
Effectivement, à part. Pardon ? Une idée de justice. Qu'il n'y a pas forcément dans l'égalité, sauf qu'au-dessus de nos frontons de mairie, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. On a juste oublié que l'égalité, ce n'est pas égaux. Ce n'est pas une égalité des chances, c'est une égalité en droit. Pas tout à fait la même chose. Il y a un principe de réalité entre les deux qui diffère. L'égalité, si je fais une définition simple, presque simpliste, l'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Ou demander à tout le monde la même chose. L'équité, c'est donner à chacun en fonction de ses besoins, mais c'est aussi demander à chacun de contribuer à hauteur de ses compétences ou de ses capacités. Ça, ça va créer des tensions dans une structure d'emploi. Une entreprise, elle a besoin d'indicateurs pour fonctionner. Si je reprends ma définition de nos amis Taylor et Ford, qui dit procédure dit indicateur, et qui dit indicateur dit généralement les plus faciles, se rentrent dans un tableur Excel. Ce sont des indicateurs quantitatifs. Ils ont un énorme avantage, ils sont prédictibles. Ils sont contrôlables. Sauf que, en face, vous m'avez rentré un autre élément. Quand on commence à parler de choses comme la justice, les indicateurs ne sont pas que quantitatifs, ils deviennent qualitatifs. Combien d'entre vous ont déjà vécu un jour une situation en entretien d'évaluation annuel, soit pour eux, soit pour quelqu'un qu'ils évaluaient, de dire à une personne, ton objectif c'était 10. T'as pas fait 10, t'as fait 8. Et aux surprises, la personne en face, avec un grand sourire, vous dit « Ah ouais, j'ai fait 8, hein. C'est super. Et j'espère bien que tu vas valoriser cette réussite à 8, parce que mes 8 à moi, ils sont super bien faits. Hein. Bon, lui, au bout, là-bas, du coup, au fond du couloir, il a fait 10. Mais ses 10 à lui, ils ne sont pas bien. Mes 8 à moi sont bien. » Perception de la justice. Elle n'est pas la même entre les individus. L'être humain est un paradoxe sur deux pattes. D'un côté, il dit « Je veux être... » traité comme mon voisin. Et en même temps, il dit, je veux être considéré comme unique. Je ne suis pas comme lui, surtout pas. Ça signifie qu'on va avoir un problème avec la notion de compensation. La compensation du handicap est un dû légal, confirmé encore par la loi de 2005, qui dit qu'on doit tenir compte des conséquences d'une personne, de son handicap, sur son activité professionnelle. Et je vous rappelle que 80% des handicaps sont invisibles. Qui vous dit qu'au moment où on va mettre une compensation qu'on va penser juste et répondant aux besoins de la personne, les collègues vont prendre ça pour quelque chose de juste. Donc on est en train de se rendre compte que rien que l'idée de différencier des traitements dans des candidatures, ça peut poser de vrais problèmes. La relation professionnelle est tiraillée entre ces différents éléments-là. Ce petit schéma, il nous montre l'égalité à gauche, l'équité à droite. On ne peut pas faire plus simple pour présenter les deux. Ça vous parle ? Bah, c'est tellement simple que là, si on se limite à l'image, c'est simpliste. Parce que ce petit schéma, il va nous amener à nous poser plein de questions. Les caisses, c'est du matériel. Est-ce que la compensation doit se limiter à du matériel, à de l'ergonomie, à de l'aménagement physique de poste ? Ben, la réponse est qu'il n'y a que 25% des travailleurs handicapés qui ont besoin d'un aménagement physique de leur poste de travail. La grande majorité vont avoir besoin essentiellement de compensation organisationnelle, c'est-à-dire la prise en compte de leurs besoins, mais non seulement impactant leur travail et l'organisation, la leur, mais potentiellement impactant le reste de l'équipe. Laquelle des deux est la plus facile à mettre en place, d'après vous ? Technique ou organisationnelle ? Technique, hein ? Ah oui, parce que pour peu que la personne ait bien sa reconnaissance de handicap, on fait appel à la bonne compétence ergonomique ou autre, et le budget, bah, il y a des aides. Il y a la GFIP, il peut y avoir le FIPHFP, il peut y avoir, pour le public effectivement, il peut y avoir un accord, il peut y avoir un conventionnement, privé ou public d'ailleurs, là en l'occurrence les deux, AGFIP ou FIPHFP. Et ça, c'est facile à financer en quelque sorte. Plus facile, même si aujourd'hui ça l'est quand même moins dans la totalité qu'avant. L'organisationnel, ça relève à 100% de la volonté de l'entreprise de bousculer des procédures, des services, des tâches, des fonctions. Quand on commence à parler de procédures, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les procédures dures, les procédures mixtes et les procédures molles. Ça parle à certains d'entre vous ou pas ? Non ? Les procédures dures, c'est ce qui est écrit noir sur blanc, c'est gravé dans le marbre. Des procédures de sécurité sont des procédures dures. Les procédures molles sont les us et coutumes. Les procédures mixtes, c'est les deux. Prenez une politique de communication, ce sont des procédures mixtes. On va écrire noir sur blanc comment on communique, mais la teinte que ça peut prendre, humoristique, technique ou autre, elle, elle est liée aux us et coutumes, à la culture de l'entreprise. Qu'est-ce qui est le plus facile à changer ? Les procédures dures, les écrits ou les procédures molles, les us et coutumes ? Les molles sont plus faciles à changer ? Ah bon ? Ok, effectivement. Ben, ce petit schéma, il est en train de nous poser plein de questions autour de tout ça. Parce que là, il nous évoque la compensation technique, derrière l'organisationnel, il y en a une autre, il y a potentiellement la formation. On vient de dire que le niveau d'études moyen des personnes handicapées est beaucoup plus faible. Donc ce que je suis en train de dire pour le recrutement est tout aussi vrai pour du maintien dans l'emploi. 85% des personnes vont déclarer un handicap en cours de carrière. Quelle est la première cause de handicap en France, selon vous, aujourd'hui ? Le vieillissement. Comment sont les pyramides des âges de nos entreprises ? Elles s'élargissent vers le haut. Quand on recrute, on va avoir le même problème qu'avec le maintien dans l'emploi. Potentiellement des gens en reconversion professionnelle avec une nouvelle vie. Ce matin était intervenu dans cette session Joanne Titran, directeur de l'égalité des chances d'Adeco, qui avait évoqué les statistiques faites par son entreprise qui dit que dans les quelques années qui viennent, on va comptabiliser en moyenne pour chaque salarié entre 10 et 12 métiers tout au long de sa carrière. Comment vous faites pour trouver l'école qui va le former à savoir faire ces 10 métiers de sa vie ? C'est bien le culte du diplôme. À la chaire diversité de Dauphine, vous expliquerez qu'on a remplacé les titres de noblesse par des diplômes. Petite anecdote, un conseil d'administration d'un grand groupe à dimension mondiale, tous les directeurs généraux placés autour de la table, les Américains se présentent, les Allemands se présentent, etc. Et les Français commencent à se présenter. Polytechnique, promotion temps. Mine, promotion temps. Déjà, vous avez la hiérarchie entre les deux. Hein. Premier qui parle, le deuxième qui parle, l'autre. Au bout du troisième, il y a un Américain qui l'arrête en disant « Oui, mais dans la vraie vie, vous faites quoi ?» Le culte du diplôme, si vous regardez bien, beaucoup d'annonces commencent par ça. Celle-là encore, pour le coup, elle présentait d'abord le poste avant les diplômes. Mais enfin bon, une fois qu'on est dans les savoir-faire et savoir-être, c'est quand même les diplômes qui arrivent avant les savoir-être. Donc on est dans de l'archi classique. Ce schéma, il nous questionne aussi sur autre chose. Si je suis en train de mettre en place des choses au moment où je recrute quelqu'un, de façon technique, de façon organisationnelle ou en termes de formation, ça veut dire que je suis en train de faire différemment pour cette personne par rapport à ce que je fais pour les autres. Il va me falloir une quatrième forme de compensation, de la proximité pour suivre cette situation. Sinon, elle va vite retomber dans les grands classiques. Et là, on est en train de rentrer en plus la place du temps dans le recrutement d'une personne handicapée. D'autres questions encore autour de ça. La compensation, qui doit la porter ? Est-ce que c'est l'individu qui doit porter tout l'effort de sa compensation ? Parce que ça va nous interroger sur deux aspects. Ses capacités physiologiques, jusqu'où il peut tirer sur la corde ? Et là, je vous invite à toutes les réflexions que vous avez peut-être déjà eues sur la problématique de la médecine du travail. Vaste débat. Autre problématique, si la personne est consciente de ses limites, elle demandera peut-être de l'aide et demandera de la compensation ou évoquera ses besoins. Si elle n'en est pas consciente, elle ne pourra pas mesurer son besoin. Et là, on commence à dire que la problématique du recrutement d'une personne handicapée, c'est aussi qu'elle s'identifie et qu'elle se déclare. Vous allez voir sur une autre slide que ça peut avoir des incidences très importantes si elle se déclare ou pas. L'une des premières que je peux vous donner tout de suite, c'est qu'une personne handicapée qui déclare son handicap au moment d'une procédure de recrutement a 25 fois moins de chances d'accéder à l'emploi que quelqu'un d'autre. Conclusion, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne déclarent pas. Mais ils vont donc être traités selon le schéma avec les petits ressorts que je vous ai montrés avant, égalité, équité, et puis notre petit dessin avec l'arbre et les petites bestioles devant. Eh ben, elles vont être traitées comme des personnes ordinaires, n'ayant pas de besoins spécifiques. Ça risque de coincer à un moment donné. Donc on a deux dimensions, la dimension physiologique et la dimension psychologique. Ça, c'est au niveau de l'individu. Ce petit schéma, il nous questionne encore sur autre chose. Si ce n'est pas l'individu qui doit porter tout seul la compensation, est-ce que c'est l'équipe ? Est-ce que c'est à l'équipe de faire les efforts autour du besoin de la personne ? Ça, ça questionne sur l'organisation du travail, sur la notion de coopération, voire la notion de solidarité. Mais si vous analysez bien ça, vous avez peut-être remarqué un truc. C'est que quand une équipe dysfonctionne parce que des gens ne communiquent plus ou ne collaborent plus entre eux, le premier réflexe du management, c'est d'essayer de recréer de la cohésion. Vous avez vu beaucoup de managers vous se rapprocher d'une situation où il y a une cohésion spontanée des gens autour de quelqu'un. Imaginez qu'il n'y ait pas un passif, mais un passé hein, positif avec quelqu'un, de façon intrinsèque. On pourrait imaginer une équipe qui vient en aide, en tout cas un certain temps, au départ, de la personne. Vous avez vu beaucoup de managers essayer de dire « Oups, attendez, oh, ne vous surinvestissez pas trop ». Parce que combien de temps vous allez accepter justement de faire cet effort-là ? Et c'est sûr que de collaborer ou de surcompenser les difficultés d'un collègue une heure par jour pendant une semaine ou une heure par jour pendant 5 ans, ce n'est pas les mêmes perspectives. Alors je vous laisse aussi imaginer quand la personne, ce n'est pas la préférée du service. Or, une personne handicapée, c'est avant tout une personne comme une autre. Donc elle a des relations, comme tout le monde, positives, négatives ou neutres avec ses collègues. Et puis ce que je dis toujours, une carte de RQTH, elle n'est pas double face. Hein. De l'autre côté, il n'y a pas marqué vertu. Hein. Ce n'est pas plus fréquent que chez d'autres personnes, mais il y a des personnes handicapées qui peuvent tenter d'abuser d'un statut. À partir de là, comment on se positionne en termes de solidarité ou de surcompensation d'équipe autour de quelque chose comme ça ? Donc ça, ça questionne. Puis il y a un dernier questionnement. Est-ce que c'est l'entreprise à ce moment-là qui doit porter ? Mais là encore, suivant qu'elle est dans un régime généraliste avec les aides de la GFIP ou du FIP, ou qu'elle soit sous conventionnement ou qu'elle soit sous accord, ça change la donne. Si on est dans les entreprises sociales de l'habitat, ce n'est pas la même culture que si on est dans une SS2I. Si on est, bah tiens, le groupe LVMH qui organise, si on est dans des maisons comme Veuve Clicquot ou Mouette et Chandon ou autre, il y a des cultures extrêmement paternalistes qu'on ne retrouvera pas forcément dans tous les secteurs d'activité. Tout ça, ça va impliquer un engagement plus ou moins important de l'employeur. Tout ce qu'on est en train de poser dit qu'il y aura un impact sur le recrutement de personnes handicapées. Parce que ce que je vous ai montré sur le petit schéma, ça reste de la compensation. On voit qu'on a reconstruit une égalité des chances. Les petits bonshommes, ils ont tous la tête au même niveau à la fin. Une politique de compensation, c'est le rattrapage d'un désavantage et surtout pas l'apport d'un avantage. Comment on mesure ce degré de raisonnabilité ? Jusqu'où je vais en disant qu'il y a déjà 4 formes de compensation ? Donc potentiellement, il faut un bon nombre de savoir-faire. Il y a 3 niveaux où ça peut être porté. Les 4 formes, c'était technique, organisationnelle, formation et proximité. Les 3 niveaux, c'est la personne, c'est l'équipe, c'est l'employeur. Avec tout ça, il faut que ce soit bien le rattrapage d'un désavantage et pas l'apport d'un avantage. C'est un équilibre quand même précaire. Imaginons qu'on passe une annonce comme celle qui a été passée là. Bon, les chiffres sont totalement fantaisistes. Hein. Un recrutement, c'est un entonnoir. Donc vont arriver dans le haut de l'entonnoir toutes les candidatures. Et on va les trier. C'est comme s'il y avait des tamis à l'intérieur. Les tamis, ce sont les différents critères qui ont été posés. Vous avez vu que les premiers, c'est les savoir-faire. Et après, c'est les savoir-être. On va retenir une shortlist. Et parmi ces 3 candidats, on va en prendre un. Simultanément, il y a peut-être une personne handicapée qui a osé déclarer son handicap lors du recrutement, spontanément. Ça ne veut pas dire que c'est la seule. Ça veut dire que dans les 90 autres, il y en a peut-être. Les 90 autres travailleurs ordinaires, dits ordinaires. Mais ils n'ont pas été identifiés. Mais si on applique les mêmes types de filtrage sur les 2 populations, à terme, de toute façon, les premiers qui ne se sont pas identifiés, ils vont directement être éjectés du système parce que leur profil semble déconnant par rapport au poste à pourvoir. Et si on n'ouvre rien de plus, le seul qui aura osé s'identifier ne passera pas plus le cap de la sélection. Le premier réflexe qu'on a généralement, c'est d'augmenter le sourcing. On va avoir plus de candidatures à étudier. Et on fait ça. On va sur des job boards, on fait des salons emploi et handicap, et on a plus de candidatures à classer verticalement. Parce qu'on applique toujours les mêmes filtres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de faire passer plus de candidats ? Sourcer plus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ah oui, ça veut dire qu'en fait, il faudrait s'attaquer au bas de l'entonnoir aussi. En fait. Effectivement, vous avez entièrement raison. Je vous mets un petit schéma. Quand on dit élargir les critères, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'intéresser uniquement au moment du recrutement. Il faut s'intéresser à toute la chaîne de la vie de la personne dans l'entreprise. Depuis le sourcing et se projeter sur un avenir professionnel. Ce qu'on ne fait pas forcément autrement qu'avec nos standards qui sont très cloisonnants. Et c'est bien pour ça que quand on recrute quelqu'un et qu'on a déjà recruté un profil que ça a à peu près fonctionné, on se dit le prochain profil identique, il est rassurant. Mais après, on va reprocher qu'ils soient tous pareils. Ok. On est persuadé que quelqu'un qui a déjà fait un bac plus 5, il va être plus facile à former par la suite parce que pour le coup, il a déjà été formé à un certain niveau, donc ça lui a donné une souplesse. C'est toujours vrai, ça ? J'en ai vu à bac plus 5 hein, pour aller les former, c'était pas gagné derrière. Hein. Ça avait tout donné au début. Hein. En fait, ce qu'on peut proposer là, c'est dès l'ouverture du poste, on va faire ce que dit madame. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser non pas à l'annonce en tant que telle, c'est qu'on va aller se rapprocher des opérationnels. Et qu'au lieu de confier la description d'un poste à la touche F5 qui dit que tel poste en compta ou que tel poste en paye, c'est F6 ou autre, et d'éditer directement en changeant que l'adresse, on va essayer d'aller faire collaborer les ressources humaines et le management de proximité pour redéfinir non pas le poste dans l'absolu, mais le besoin précis sur ce poste à pourvoir. Et typiquement, c'est le travail qu'on a fait avec le client concerné par l'annonce que je vous ai donnée là. Vous aviez compris ce qu'il fallait que la personne fasse dans les critères que je vous ai donnés ? Relancer, conseiller et assister les collaborateurs, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, dans la remontée de documents administratifs et financiers. Contrôler la validité des documents, assurer le reporting des budgets et intégrer des éléments de système dans le système de gestion des payes. À quoi ça peut faire référence, ça ? Ouais. Ben, j'en étais au même point que vous quand je l'ai lu. Et il faut se dire que les 90 travailleurs ordinaires qui ont postulé, ils en étaient au même point de vue aussi. Donc il n'y a pas que les personnes handicapées qui n'ont pas compris le poste. Ça vous est jamais arrivé dans votre vie professionnelle de postuler à un emploi et lors de l'entretien de découvrir qu'en fait ça ne vous intéresse pas plus que ça, parce que c'était vraiment... Ouais, si, hein, ça parle ça, hein, dire non mais en fait j'ai pas compris le poste là. Ben, l'un des préalables, c'est de faire ce que dit madame, c'est de retourner aux fondamentaux du poste tel qu'il doit être tenu. Ces fondamentaux là-dessus, en fait, on a fait tout un travail avec cette entreprise. Je vous fais un petit vie ma vie. On l'a renvoyé, allez, une quinzaine de candidatures de personnes handicapées. Elles ont toutes été rejetées, sans exception. Ils ont accepté d'avoir une formation en disant, bon, allez, avant de vous mettre complètement de côté avec vos candidats, on veut bien que vous nous expliquiez. Une journée de travail entière avec les recruteurs pour travailler en priorité sur ce qu'on va appeler les risques subjectifs, c'est-à-dire tous les fantasmes, toutes les représentations ou tous les a priori qui peuvent graviter autour du handicap. Et Dieu sait que c'est un sujet qui véhicule énormément d'a priori. C'est pas étonnant. Il y a des composantes légales, une obligation. Des composantes financières, contribution volontaire. Il y a des composantes médicales. Il y a des composantes émotionnelles, hein, sérieuses. Quelle est la seule chose qu'on n'enviera jamais à une personne handicapée quand on la croise ? Son handicap. Or, le handicap, il est présent partout aujourd'hui. Tiens, à main levée, juste comme ça. Qui dans cette salle connaît, dans sa vie personnelle ou professionnelle, quelqu'un qui a eu un problème de santé qui a duré plus d'un an ? Gagné, bingo, vous connaissez tous des gens qui potentiellement rentrent dans la définition du handicap. Je vous rappelle que l'un des critères de la reconnaissance de handicap, c'est un problème de santé qui impacte l'activité professionnelle pendant plus d'un an. Dans ceux dont je vous ai parlé, il y a peut-être des gens dont ça n'a pas impacté la vie professionnelle. Directement. Parce que si les personnes auxquelles vous avez pensé, ce sont des parents, par exemple, devenus dépendants, et que vous êtes, pour des raisons financières, devenu leur tierce personne, ça impacte quand même votre vie professionnelle à vous. N'étant pas vous-même handicapé, mais en situation handicapante. Parce que si votre journée commence par 2 heures chez vos parents, faire la journée, retourner chez vos parents, et ça tous les jours, votre disponibilité, votre fatigabilité ou autre, elle correspondrait bien à une personne handicapée à un moment. Ça ça risque d'être compliqué, plus l'émotionnel, la concentration, etc., etc. Donc, le premier travail, ça a été de dédramatiser le sujet. Le deuxième, ça a été de les aider à faire le distinguo entre ces risques subjectifs et ce que j'appellerais des risques objectifs, c'est-à-dire les conséquences réelles du handicap de la personne sur son activité professionnelle. Ben, c'est à ça qu'il va falloir former toute la chaîne de recrutement si on veut élargir le champ des possibles, qui est moins d'a priori au moment où on regarde des candidatures, mais qu'au-delà de ça, on sache quels sont les acteurs qui peuvent intervenir en interne ou en externe pour réfléchir sur comment répondre aux besoins de la personne. Ah oui, mais il va y avoir un problème. Pour peu qu'on ait mis en place dans des structures des formations sur la discrimination, les juristes nous ont bien dit qu'il ne faut surtout pas poser de questions autour du handicap. Comment vous faites pour aider quelqu'un pour savoir comment répondre à son besoin si vous ne lui posez aucune question? Ce n'est pas un vrai paradoxe. Il n'y a qu'une seule question qu'on n'a pas le droit de poser, c'est la nature du handicap. Tout ce qui concerne les conséquences doit au contraire être abordé. Ah, il y a plein de méthodes, hein. L'une des premières, c'est de prendre conscience des enjeux que peut avoir une personne handicapée lors d'un entretien de recrutement. Son enjeu principal, c'est quoi? C'est d'être embauché. Il ne faut pas se leurrer. Tout ce qui risque, à ses yeux à elle, de la mettre en porte-à-faux, elle va tenter de le minimiser ou de le cacher. 25 fois moins de chances d'être embauchée si on déclare un handicap. Imaginez celle qui a quand même osé en parler ou qui a un handicap qui se voit. Est-ce qu'elle a envie d'en parler ou pas? En même temps, si on en parle, elle se sent en danger parce qu'elle a peur que si elle évoque son besoin, elle soit entre guillemets plus coûteuse, je ne parle pas forcément d'argent par rapport à un candidat ordinaire, et de l'autre côté, si elle sort de l'entretien sans qu'on en ait parlé, elle a un double sentiment. Ouf, je suis passé au travers, mais si j'ai un vrai besoin, comment je vais quand même faire pour leur faire savoir et combien je vais tenir de temps, moi tout seul, en surcompensant? Il ne faut pas se leurrer, à un moment ou à un autre, et ben des choses vont remonter. Et même si on a créé beaucoup de climat de confiance, beaucoup d'ouverture, quel est le moment où la personne va se sentir un peu plus en sécurité à la fin de la période d'essai? Eh bien, potentiellement, il y a des choses qui vont remonter là, il y en a encore qui vont remonter 2 ans après. Hein, ça, principe de réalité. Donc, ça signifie que si on veut élargir le champ des possibles, toutes les personnes qui vont intervenir depuis l'ouverture du poste vont devoir prendre en compte, non pas des standards cloisonnants de nos procédures, on a toujours fait comme ça, c'est quels sont les besoins réels sur le poste. Le poste, là, l'annonce que je voulais, c'est la saisie des notes de frais. Tout ce beau verbiage-là signifie que les tâches concrètes, quand on les a détaillées avec les recruteurs, c'était de prendre des papiers de notes de frais, avec certes parfois des formats différents. Pardon. Suivant les pays ou autres, effectivement, les notes de frais, les tickets ne sont pas pareils, les TVA ne sont pas pareils, etc. Ce qu'il faut, ils le disent bien dans l'annonce, il faut de la rigueur pour recopier des chiffres dans des cases d'un tableur Excel qui va générer un fichier qu'il va falloir être capable de copier pour qu'il soit réinjecté dans le système informatique des payes. Elle est où la connaissance obligatoire de la paye, hormis le fait qu'a priori c'est ce qu'elle vient apprendre? Pas trouvé. Restait le problème de l'anglais. Ils nous ont dit, chez nous, vous comprenez, tout le monde doit parler anglais. Parce qu'en plus, si on veut évoluer et tout, et elle va en avoir besoin parce qu'elle va gérer les notes de frais des expatriés. C'est bien connu. Les expatriés, une fois qu'ils ont quitté le territoire national, on leur parle en anglais. On leur écrit en anglais, c'est logique. C'est évident. Vous êtes d'accord? Oui, bah, moi aussi, je fais que ça. Je suis alsacien d'origine, je ne vous raconte pas à chaque fois que je passe la frontière en Allemagne et tout, on ne parle plus qu'en allemand. C'est fou, ça. Même les Français me parlent en allemand, c'est dingue. Et c'est là que tout d'un coup, ils ont commencé à percuter. Et ils ont repris les CV qu'on avait tous jetés, parce qu'on les a relus le matin, hein. Et ils ont repris. Ils ont dit, mais en fait, tout ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, si on détaille le poste, ce dont on a besoin, c'est ce qu'ils avaient quand même écrit, hein, c'est au-delà d'aptitudes avérées en rigueur, il est faux, hein, les aptitudes avérées en rigueur, nous recherchons une personne dotée d'un sens relationnel aisé, parce que quand il faut relancer des gens, que ça leur casse les pieds de donner des documents, mais qu'il faut quand même leur expliquer que s'ils veulent être remboursés à un moment, il faut peut-être bien qu'ils aient les papiers, enfin bon, bref, je passe au truc. Capable de travailler en équipe et de réagir rapidement, c'est que des savoir-être. Et quand ils ont relu les candidats, ben entre autres, ils sont tombés sur une ancienne bibliothécaire en reconversion professionnelle, 47 ans. Ah oui, mais on n'a pas l'habitude d'embaucher des gens à 47 ans. On est plutôt dans le service pay 22, 23, 24 ans, grand maximum. Mais 47 ? Mais t'es déjà senior, vous imaginez, senior à partir de 45 et encore. Mais on va pas la former parce que pour le temps qu'elle va rester dans l'entreprise, bouf, à peu près une vingtaine d'années quand même, hein, si tout va bien et vu comme on est parti, ça peut représenter ça, une paille. Ok, Et on reprend les savoir-faire d'une personne bibliothécaire, maîtrise de l'informatique. Bah oui, pas le même logiciel, mais elle est accoutumée aux outils informatiques. Il faut apprendre un nouveau logiciel. Mais elle connaît l'informatique. Sens de la rigueur. Bah si dans ce métier-là, il n'y en a pas. Bah en fait, on a déplié tous les CV. Ils nous ont dit on a un petit problème, c'est qu'en fait, on les a tous exclus. On a envoyé 15 lettres négatives. Comment on fait pour leur envoyer des lettres en leur disant finalement, on voudrait quand même les rencontrer ? Ben, vous allez ramer parce que là, ça sent un peu le gaz. Mais la réalité, c'est qu'ils m'ont dit quelque chose de tout à fait juste. Comment je fais pour détecter des savoir-être dans un CV ou dans une lettre de motivation? Je ne peux pas. Il va falloir que je décloisonne mon processus de recrutement et que je passe par d'autres choses, des recrutements alternatifs, potentiellement par des mises en situation, par des recherches d'aptitude, par des tests de logique, des choses qui correspondent au poste. Mais ça, on n'a pas l'habitude, hein. On a l'habitude de dire si à bac plus 2 de temps, a priori c'est faire. A priori. Ben, en fait, il va falloir faire ça tout le long. Convoquer à l'entretien, ben, c'est aussi s'enquérir du besoin de la personne. Alors évidemment, pas dans n'importe quel ordre. On commence d'abord par lui fixer le rendez-vous. Et après, on lui demande si elle a un besoin spécifique. Et on va recommencer tout le long. Je vous laisse le parcourir. Il est affiché depuis un petit moment. Je pense que vous l'avez regardé. On ne va pas avoir le temps de le détailler complètement. Il faut aussi ne pas hésiter à utiliser toute l'armada des types de contrats qu'on a à disposition aujourd'hui et pas se cloisonner au CDI à temps plein. Qui dit compensation organisationnelle dit qu'il y a peut-être de belles opportunités sur des temps partiels parce que le temps partiel est plus compatible avec le besoin de la personne que le temps plein. Le CDI, ouais, et quelqu'un qui peut avoir une opération en vue ou des soins médicaux et qui sait que dans une échéance de 2 ans ou autre, elle a besoin d'eux, est-ce qu'elle veut forcément un CDI ou un CDD ? J'ai vu des personnes qui préféraient, parce qu'elles ne savaient pas quel était l'horizon médical, avoir plutôt un CDD dans de bonnes conditions, et peut-être à temps partiel, et effectivement reprendre derrière, après un arrêt, mais peut-être dans la même entreprise. Il y a un schéma qui va cumuler un petit peu les éléments. C'est que, on l'a dit, les stéréotypes autour du handicap sont majoritairement négatifs. Ils confondent les risques subjectifs, les fantasmes et les vrais besoins de la personne. Si on mélange tout ça, ben le gros risque, c'est qu'il y a peu de recrutement. Comme disait mon patron Guy dans une intervention ce matin, il disait, j'ai vu plein de recruteurs dire, j'ai recruté une personne handicapée, je me suis planté, plus jamais je recruterai de personnes handicapées. On n'a jamais entendu la même chose, dire, je vais recruter une personne ordinaire, je me suis planté, plus jamais j'en recruterai. Le problème, c'est qu'un échec, c'est 100% d'échec, une réussite, c'est 100% de réussite. À un moment, il va falloir multiplier les expériences pour potentiellement limiter ça. Parce que si on ne le fait pas, on va avoir peu de recrutement, mais s'il y a peu de recrutement, il y a peu de réussite. S'il y a peu de réussite, ça ne peut pas marcher. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le sujet du handicap, c'est un superbe laboratoire d'innovation sociale, parce qu'il y a le même combat sur d'autres problématiques. On l'a vu avec l'égalité professionnelle. Femmes-hommes, je ne sais pas si vous voyez l'effet tourniquet, ce que ça peut être. C'est le manager qui est convaincu qu'une personne, parce qu'elle est porteuse d'une certaine différence, de toute façon, elle ne peut pas tenir le poste. On lui impose de prendre la personne. Il la prend quand même, mais il ne lui donne pas les moyens. On appelle nous compensation, de pouvoir coller aux besoins. Donc elle se plante. Vu qu'elle s'est plantée, elle est éjectée par le système, d'où l'effet tourniquet, ce qui confirme les stéréotypes négatifs du manager qui avait bien raison de dire que de toute façon ça ne pouvait pas marcher. Donc en fait, élargir son processus de recrutement aux travailleurs handicapés, c'est en fait réfléchir à l'ensemble de son approche, de ses pratiques RH, pas uniquement autour des personnes handicapées. Parce que si vous réfléchissez bien, si vous arrivez à aménager lors du recrutement un poste en fonction des besoins, par exemple, de soins de traitement ou de l'attitude horaire de quelqu'un. Je ne dis pas travailler moins, je dis simplement répartir un peu autrement les horaires par rapport à des soins de kiné ou autre, ou à une chimio, une fatigabilité ou autre. Ça, c'est une obligation légale, droit à la compensation. Et quelqu'un qui approche des 65 ans, qui a une fatigabilité plus importante, qui a peut-être été usé par les métiers que vous avez mis, peut avoir les mêmes besoins de souplesse. Sauf que pour lui, il n'y a pas d'obligation. C'est en ça véritablement qu'on peut réfléchir non pas au sujet du recrutement de personnes handicapées de façon isolée, mais plutôt de l'intégrer dans l'ensemble des pratiques ressources humaines et à chacune des étapes que je vous ai montrées avant, d'essayer de voir en quoi, au contraire, ça peut être une opportunité. Parce que typiquement, là, les postes qu'on a décortiqués avec le manager, il s'est senti valorisé parce qu'on ne lui donnait plus un candidat standard et il s'est senti en capacité d'évoquer les véritables besoins sur le poste, voire potentiellement de surpondérer certains savoir-être ou certains savoir-faire sur des candidats atypiques. Et quand cette personne réussit, c'est l'équipe qui réussit et c'est le manager qui réussit. Fierté globale, on a plutôt envie de recommencer. Par contre, quand on se plante, l'entreprise doit accompagner en disant bah, on a le droit de se planter. Qui dans cette salle a déjà fait des recrutements qui ont loupé? Ok. Eh bien, une étude faite par Adecco a montré un truc extraordinaire, et ce sera le mot de la fin. On a interrogé des recruteurs qui, comme vous, potentiellement, sont trompés. Moi aussi, quand j'étais chasseur de tête, pourtant, j'ai débauché des gens qui étaient, a priori, super bons là où ils étaient. Changer de contexte, ils se plantent. Bon, bah, me suis planté aussi. Eh bien, une étude d'Adecco a démontré un truc, c'est que 91% des recruteurs qui se sont plantés sur un recrutement, quand on leur demande « qu'est-ce que vous allez faire ?» en relançant le recrutement pour pouvoir le poste que vous aviez toujours pas pourvu, ils disent exactement la même chose. Moi, je m'interroge juste sur un truc. Si un jour on vous dit que vous avez un trésor que vous pouvez trouver et que la méthode que vous utilisez pour le trouver ne marche pas et qu'on vous laisse une deuxième chance, vous retentez de la même façon ou pas ? Donc potentiellement, un des éléments, une des pistes de réflexion, mais pour ça, il faut aussi que la direction soit largement porteuse. Le sourcing. Quand ce sont des candidats qui sont atypiques ou les premières préqualifications, si ce sont des candidats atypiques, est-ce qu'il faut véritablement laisser ces types de recrutement atypiques dans les mains de débutants, de personnes qui ont un enjeu énorme par rapport à décrocher un poste ou un autre à l'issue d'une formation ou autre, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le donner à des gens plus confirmés, plus en capacité de prendre des risques et de ne pas se sentir en porte-à-faux par rapport à une direction, parce que quelque part, ils ont déjà montré plusieurs fois leur capacité à réussir, y compris dans ces situations atypiques. Ça, c'est une question de fond, et on la retrouve pas uniquement sur ça, vous la retrouvez à l'opposé, sur des profils beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, sortir d'études avec un doctorat en sciences, par exemple, vous ne trouvez pas de boulot en France, sauf dans les universités. On a juste oublié un truc, c'est que les chercheurs, neuroscientifiques ou autres, peu importe, ce sont des trouveurs de solutions. Ils posent des problèmes qui n'existaient pas, donc ils doivent inventer des outils pour les résoudre qui n'existaient pas. Comme disait Einstein, on ne résoudra pas un problème avec les éléments qui ont défini le problème. Ben, des gens qui sont capables de trouver ça, c'est des vrais savoir-faire, c'est des vrais savoir-être. Par contre, effectivement, il faudra les accompagner dans l'intégration. Comme des personnes handicapées, à leur façon, ils sont aussi en situation handicapante. Et comme eux, ils sont discriminés en matière d'emploi. Donc l'idée, c'est de décloisonner la norme. Voilà ce que je pouvais essayer de vous apporter sur ces quelques minutes. Après, maintenant, il y a le comment faire et comment l'accompagner. Mais là, il faudra plus que 45 minutes. Par contre, si vous avez des questions, madame a toujours le micro. Et on a encore 2-3 minutes avant qu'il nous pousse dehors. Il y a quelqu'un d'autre qui intervient après, ici ? Oh, zut. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, des remarques des... Oui, je vous en prie. Le petit micro. Moi, je vous entendrai, les autres, c'est pas sûr.
Moi, j'ai une remarque, mais après, c'est très personnel. C'est peut-être aussi dû à mon âge, je ne sais pas. J'ai l'impression, en tout cas, que de plus en plus, les entreprises essaient, en tout cas, de faire attention à leur recrutement à ce niveau-là. Et quand vous parlez de 25% des personnes en situation de handicap qui déclarent leur handicap durant l'entretien...
Non, c'est 25% de besoin d'aménagement technique. Par contre, une personne qui déclare son handicap a 25 fois moins de chances de déclarer son handicap.
Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours d'actualité, parce que j'ai l'impression, à mon niveau, que c'est plutôt de la discrimination positive. En tout cas, chez nous...
C'en est tellement... Enfin, je vous donne mon point de vue de cabinet, parce que là, moi, je m'occupe du service formation, mais au sein du cabinet, il y a un service d'audit et un service recrutement de personnes handicapées. On préconise toujours, malgré tout, à des personnes handicapées, quand elles ne sont pas sûres de la politique handicap de l'employeur, de ne pas préciser dans leur candidature initiale le handicap. De l'aborder par eux-mêmes par la suite, lors du processus de recrutement, mais pour la première lecture, de ne pas le faire. Il y a de la discrimination positive. Le problème, je vais vous donner ce qui s'est passé dans une entreprise... Bon, c'est le secteur public, hein, tant pis. Il fallait pourvoir 100 postes de personnes handicapées par rapport au manque des 6% autres. Ils ont pris en gros les 100 premiers sur les piles de candidats. Ils ont fait de la discrimination positive très ouverte, très tout ce qu'on veut. Et au bout de 2 ans, ils nous ont appelés en disant « on ne comprend pas, vous vous rendez compte, il y a un truc qui ne colle pas, il y en a 25%, on n'arrive pas à les mettre au boulot ». C'était les 25% les plus intelligents, c'est ceux qui ont compris que ce qu'on a embauché chez eux, c'était le papier, pas leurs compétences, pas leurs appétences ou autres. Donc ils ont dit « je vous ai donné ce que vous vouliez, maintenant il ne faut plus rien me demander ». Je caricature à peine, c'était un peu ça. Donc effectivement, les entreprises s'ouvrent quand même de plus en plus. Il y a une véritable prise de conscience, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà demain. C'est-à-dire que le recrutement d'aujourd'hui, c'est plus l'avenir, c'est le présent de l'entreprise. Et que si on se loupe, c'est pas dans 10 ans qu'on va avoir des problèmes, c'est maintenant. Et avec le vieillissement de la population et le maintien dans l'emploi, le recrutement, finalement, c'est presque moins de problèmes que le nombre de personnes qui vont déclencher des besoins spécifiques. Donc je vous rejoins, on n'en est quand même pas encore à ce que ce soit un avantage concurrentiel de déclarer son handicap si, dans un cas, si vous n'avez pas besoin de compensation et si vous avez Bac plus 5. Là, vous êtes le candidat idéal, vraiment... handicapé sans lettres. Génial. Mais ça, est-ce que ça existe vraiment ? Une RQTH, ça n'arrive pas par hasard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Non ? Ben écoutez, je vous remercie alors. Bonne soirée.